Voici ce que dit le prophète Ésaïe au chapitre 55. Ô vous tous qui êtes assoiffés, venez vers les eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez. Demandez du grain, mangez, venez, buvez, sans argent, sans paiement, du vin et du lait. À quoi bon dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas et votre labeur pour ce qui ne rassasie pas ? Écoutez donc, écoutez-moi, mangez ce qui est bon, que vous trouviez votre jouissance dans des mets savoureux. Tendez l'oreille, venez vers moi, écoutez et vous vivrez. Je conclurai avec vous une alliance perpétuelle. Oui, je maintiendrai les bienfaits de David. Voici, j'ai fait de lui un témoin pour les clans, un chef et une autorité pour les populations. Voici, une nation que tu ne connais pas, tu l'appelleras, et une nation que tu ne connais pas courra vers toi, du fait que le Seigneur est ton Dieu. Oui, à cause du Saint d'Israël qui t'a donné sa splendeur. Recherchez le Seigneur, puisqu'il se laisse trouver. Appelez-le, puisqu'il est proche. Voilà, donc le livre d'Ésaïe au chapitre 55. Et donc, j'espère que vous êtes venus ici avec vos questions, vos certitudes, vos doutes, comme je dis, mais peut-être que les uns les autres, nous avons cette volonté de rechercher le Seigneur pour vivre de sa parole, de sa présence, peut-être aussi de l'appeler parfois dans nos prières, évidemment. Mais quoi qu'il arrive, le Seigneur répond, comme il est dit dans ce texte du passage d'Ésaïe, il répond pour que nous puissions vivre dans la joie et dans l'espérance à travers toutes ces descriptions d'un certain bonheur qui sont exposées dans ce passage. Il est vrai aussi qu'il est intéressant de voir qu'une nation qu'on ne connaît pas, on peut l'appeler, etc. Et il y a dans ce passage d'Ésaïe les signes d'un Dieu qui est perçu comme étant un Dieu universel, finalement, pas seulement le Dieu d'Israël, mais aussi le Dieu des nations. C'est notre Dieu que nous invoquons, un Dieu qui nous dépasse infiniment, que nous pouvons rechercher peut-être parce que lui-même est déjà à notre recherche, comme le dit notre texte biblique. Soyez les bienvenus dans ce temple, donc, avec ces quelques réflexions sur ce petit passage d'Ésaïe. Venez tel que vous êtes, comme nous le disons souvent ici, nous sommes heureux de vous retrouver pour partager l'essentiel, c'est-à-dire la parole du Seigneur. J'espère que vous avez les uns les autres les deux registres de chants, le bleu pour les chants spontanés et le marron pour les chants commandés. Et je vous invite à prendre le cantique 96, qui est un psaume 96, en entier. Nous restons dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 58, les versets 6 à 11. Le jeûne que je préfère, n'est-ce pas ceci ? Dénouer les liens provenant de la méchanceté, détacher les courroies du joug, renvoyer libres ceux qui ployaient, bref, que vous mettiez en pièces tous les jougs. N'est-ce pas partager ton pain avec l'affamé, et encore les pauvres sans abri, tu les hébergeras ? Si tu vois quelqu'un nu, tu le couvriras devant celui qui est de ta propre chair. Tu ne te déroberas pas. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ton rétablissement s'opérera très vite. Ta justice marchera devant toi et la gloire du Seigneur sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras et le Seigneur répondra. Tu hèleras et il dira « Me voici ». Si tu élimines de chez toi le joug, le doigt accusateur, la parole malfaisante, si tu cèdes à l'affamé ta propre bouchée et si tu rassasies le gosier de l'humilié, ta lumière se lèvera dans les ténèbres. Ton obscurité sera comme un midi. Sans cesse, le Seigneur te guidera. En pleine fournaise, il rassasira ton gosier et tes eaux, il les cuirassera. Tu seras comme un jardin saturé, comme une fontaine d'eau dont les eaux ne déçoivent pas. Je vous invite à prendre le premier spontané, page 3. Père, nous avons bien entendu les paroles du prophète Ésaïe, lui qui parle en ton nom, lorsqu'il nous invite à partager, à être juste, à ne pas accuser, lorsqu'il nous invite à éviter les paroles malfaisantes. Il y a là l'essence même de la loi et de ta justice. Père, pardonne-nous si en entendant ces paroles, nous réalisons que nous sommes bien loin de pouvoir les suivre, les vivre et les réaliser. Oui, pardonne-nous parce que dans ce monde qui est bien souvent injuste comme l'était le monde du prophète Ésaïe, il y a tant et tant de gens qui sont à nos portes, qui ont besoin d'un mot, qui ont besoin qu'on s'arrête, d'un regard, d'une aide quelconque. Nous réalisons que nous sommes là aussi bien loin de tout cela. Pardonne-nous, Père. Pardonne-nous lorsque nous sommes trop égoïstes. Pardonne-nous lorsque nous aidons l'affamé pour soulager notre propre conscience sans trop penser à lui. Pardonne-nous, Père, lorsque nous t'oublions au final. Parce que dans ces demandes du prophète, il y a bien même ta présence qui s'exprime dans ce monde. Oui, Père, ta loi, elle peut être dite dans les commandements. Elle peut être dite dans les deux grandes paroles qui nous demandent de t'aimer et d'aimer notre prochain. Mais les prophètes, sans cesse et sans cesse, sont revenus pour développer ces paroles et prêcher pour ta justice, celle qui pose l'homme dans sa dignité. Merci, Père, de nous rappeler cela, de nous dire combien chacune et chacun d'entre nous, des présents, des absents, ceux qui sont ici ou ailleurs, ont de la valeur à tes yeux. Merci, Père, de nous accueillir, tes hommes, avec nos vies, avec leurs difficultés, avec leurs réussites aussi. Et merci, Père, de nous permettre de mettre à tes pieds toutes nos vies, sans rien cacher. Toi seul es capable de nous accueillir, de nous redresser si nous sommes écrasés par le poids de la culpabilité, de nous relancer dans la liberté pour vivre ta parole en plénitude. Père, dans ce moment de silence, chacune et chacun d'entre nous peut te remettre véritablement toute sa vie en toute confiance. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme malfaisant ses pensées, qu'il retourne vers le Seigneur qui lui manifestera sa tendresse, vers notre Dieu qui pardonne abondamment. C'est que vos pensées ne sont pas mes pensées et mes chemins ne sont pas vos chemins, oracle du Seigneur. C'est que les cieux sont hauts par rapport à la terre, ainsi mes chemins sont hauts par rapport à vos chemins et mes pensées par rapport à vos pensées. C'est que, comme descend la pluie ou la neige du haut des cieux, et comme elle ne retourne pas là-haut sans avoir saturé la terre, sans l'avoir fait enfanter et bourgeonner, sans avoir donné semence au semeur et nourriture à celui qui mange, ainsi se comporte ma parole du moment qu'elle sort de ma bouche. Elle ne retourne pas vers moi sans résultat, sans avoir exécuté ce qui me plaît et fait aboutir ce pourquoi je l'avais envoyée. C'est en effet dans la jubilation que vous sortirez, et dans la paix que vous serez entraînés sur votre passage, montagnes et collines exploseront en acclamations, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de la ronce croîtra le genévrier, au lieu de l'ortie croîtra le myrte. Cela constituera pour le Seigneur une renommée, un signe perpétuel qui ne sera jamais retranché. À nouveau, Ésaïe au chapitre 55. Je trouve qu'il y a dans ces passages une espérance tout à fait formidable. C'est sur cette espérance que Israël a vécu, sur ce signe perpétuel jamais retranché, qui leur a permis de traverser toutes les épreuves de l'exil à Babylone, du retour qui a été difficile, qui leur permet d'être toujours là, finalement, parmi nous, comme les témoins de ce type de prophétie, finalement. Oui, il y a un signe perpétuel qui qui ne sera jamais retranché, qui est inscrit au cœur de chacune et chacun d'entre nous pour que nous puissions vivre dans la liberté, dans la joie et dans la reconnaissance. Et je vous invite à dire à Dieu notre reconnaissance. C'est dans la reconnaissance, en toute confiance, que nous pouvons dire notre confession de foi. Seigneur Dieu vivant, nous confessons ton nom comme Dieu de la vie, comme parole vivante, parole libératrice, appel, joie, projet. Par des prophètes et par Jésus-Christ, tu nous montres ce que sont ta fidélité et la grâce qui touchent chaque être vivant ici-bas. Aujourd'hui, comme hier et comme demain, par ton esprit, tu affirmes ta présence dans ce monde que tu sauves du chaos, et nous te rencontrons dans le partage de ta parole, dans le regard de l'autre, dans des gestes de la vie, dans un morceau de pain rompu. Fort dans ta faiblesse, nous savons qu'en Jésus-Christ nous libère de toute peur, que tu permets le face-à-face avec toi. Nous savons que tu nous appelles à vivre une vie d'éternité, et en tout cela, nous reconnaissons avec Jean que tu es amour, avec Paul que tu es liberté, avec l'Apocalypse, que tu es notre espérance. Amen. Père, merci pour la grâce, telle qu'elle a été dite depuis déjà des siècles et des siècles par les prophètes comme Ésaïe. Merci pour la grâce telle qu'elle a été portée par Jésus-Christ et transmise par les apôtres. Et merci de nous l'offrir jour après jour, pour que nous puissions vivre dans la liberté et dans l'espérance. Père, au moment de partager le témoignage de l'Écriture, ouvre nos cœurs à ce témoignage, que nous puissions réaliser à travers les lignes lues et entendues combien ta présence est là dans le monde et dans le cœur des hommes, pour que les hommes puissent vivre de cette présence. Amen. Voilà, aujourd'hui je vous invite à entendre comme lecture dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, le chapitre 3 en entier. Allons-nous de nouveau nous recommander nous-mêmes, ou bien avons-nous besoin, comme certains, de lettres de recommandation pour ou de votre part? Notre lettre, c'est vous, lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue par tous les hommes. De toute évidence, vous êtes une lettre du Christ confiée à notre ministère, écrite non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur vos cœurs. Telle est l'assurance que nous avons grâce au Christ devant Dieu. Ce n'est pas à cause d'une capacité personnelle que nous pourrions mettre à notre compte. C'est de Dieu que vient notre capacité. C'est lui qui nous a rendus capables d'être ministres d'une alliance nouvelle, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Or, si le ministère de mort gravé en lettres sur la pierre a été d'une gloire telle que les Israélites ne pouvaient fixer le visage de Moïse à cause de la gloire pourtant passagère de ce visage, combien le ministère de l'Esprit n'en aura-t-il pas plus encore? Si en effet le ministère de condamnation fut glorieux, combien le ministère de la justice ne le sera-t-il pas plus encore? Non, même ce qui alors a été touché par la gloire ne l'est plus, face à cette gloire incomparable. Car si ce qui était passager a été marqué de gloire, combien plus ce qui demeure le sera-t-il? Fort d'une pareille espérance, nous sommes pleins d'assurance. Nous ne faisons pas comme Moïse qui se mettait un voile sur le visage pour éviter que les Israélites ne voient la fin d'un éclat passager. Mais leur intelligence s'est obscurcie. Jusqu'au jour, lorsque on lit l'Ancien Testament, ce même voile demeure. Il n'est pas levé, et c'est en Christ qu'il disparaît. Oui, jusqu'à ce jour, chaque fois qu'ils lisent Moïse, un voile est sur leur cœur. C'est seulement par la conversion au Seigneur que le voile tombe, car le Seigneur est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et nous tous qui, le visage dévoilé, reflétons la gloire du Seigneur, nous sommes transfigurés en cette même image, avec une gloire toujours plus grande, par le Seigneur qui est Esprit. Oui, Père, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Je vous invite à prendre le chant 253 avant de revenir sur ce passage. Voilà cet épître aux Corinthiens avec cette église de Corinthe qui a donné tant et tant de soucis à l'apôtre Paul. Vous savez que cette église était divisée parfois, les uns se réclamant d'Apollos, les autres de Pierre, les troisièmes de Paul et que sais-je encore. Cette église avait pas mal de cas d'inconduite aussi. Une église assez mouvementée à l'image de la ville de Corinthe qui elle-même était connue par des dictons tels que « vivre à la corinthienne », qui voulait dire une vie particulièrement dissolue, facile, tout ce que vous voulez. Et pourtant, ce qui est intéressant, c'est de voir que Paul, dans ce passage que nous avons lu, met ces Corinthiens, ces membres de l'église de Corinthe à un très très haut niveau. Visiblement, les difficultés que Corinthe représente pour l'apôtre Paul, Paul aime cette église sincèrement et qu'il espère beaucoup en elle, visiblement. Ils sont comme une lettre de recommandation et ils sont porteurs de cette lettre et ils sont même transfigurés, c'est ce que dit en gros le texte à la fin, malgré tous les malgrés que je viens d'énumérer. Alors il écrit à cette église dans laquelle il y a sans doute beaucoup de juifs récemment convertis, ce qu'on appelle les judéo-chrétiens, qui sont à la fois encore juifs et encore un peu chrétiens, et déjà un peu chrétiens. C'est difficile d'arriver à les situer, mais ce sont des gens qui tiennent encore terriblement à la loi. Ils la connaissent très bien, cette loi, le fameux décalogue entre autres. Ils se demandent si le salut passe vraiment par la loi ou est-ce que le salut passe par Jésus-Christ uniquement. C'est aussi sans doute un problème de Paul qui, dans ce débat, utilise son style qui est particulier, qu'on appelle la diatribe, où il pose lui-même les questions auxquelles il répond pour faire avancer le débat. Il est tel qu'on le connaît, assez radical finalement et quelque peu polémique aussi. Et puis là, selon son style bien particulier, des formules choc. L'esprit, la lettre tue, l'esprit libère. Vous connaissez ce passage, cette phrase qui est devenue même un proverbe. Hein. Et là où est l'esprit, là est la liberté. C'est pour ça que ce passage est quand même assez intéressant. Mais c'est aussi un passage qui a une petite note historique. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il parle de l'ancienne alliance. Finalement, mais c'est la première fois dans l'histoire qu'on va parler d'ancienne alliance pour parler de l'Ancien Testament, vous voyez, de la Torah et des prophètes. C'est la première fois. Nous sommes en 52, une période intéressante. C'est un détail, certes, mais c'est un détail intéressant parce que c'est là que on voit par ce détail qu'on est en train de bien faire une séparation chez les théologiens de la première génération entre ce qui est de l'ordre de la première alliance, celle du Sinaï avec les commandements. Et puis une deuxième alliance qui se dessine à travers le ministère de Jésus-Christ, à travers sa mort et sa résurrection. Paul, il est là. Et sans doute que Paul lui-même, qui est un juif pharisien, vous savez, de formation, puisqu'il a été élève de Gamaliel, se pose sans doute des questions lui aussi, vraisemblablement, à ce sujet. Comment garder la loi et comment entendre la parole libératrice de Jésus-Christ ? L'ancienne alliance, elle a quelque chose de formidable. Le prophète Ésaïe, qu'on a lu dans la liturgie, là, les trois passages le montrent bien. D'ailleurs, il parle d'alliance aussi, le prophète Ésaïe. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il est dans cette première alliance complètement, et avec une très haute hauteur de vue, d'esprit, finalement. Et on dit souvent que le prophète Ésaïe, c'est le Nouveau Testament dans l'Ancien Testament. Vous savez, faut pas le dire aux amis juifs, parce que bon, ils vont trouver que c'est un petit peu de l'abus, je veux dire, et de la récupération. Mais je pense que bien des chrétiens peuvent trouver des accents dans le livre d'Ésaïe qui sont des accents véritablement qui annoncent un message assez extraordinaire. L'ancienne alliance a quelque chose de formidable, je crois. Je pense qu'elle rayonne véritablement. C'est pas pour rien que le visage de Moïse est dit lorsqu'il descend de l'Horeb dans son face-à-face avec Dieu qui lui a remis la loi, dit qu'il rayonne avec ces rayons qu'on a représentés par des cornes, comme on a pu dans les sculptures, ce que vous savez. Elle rayonne véritablement parce que cette loi est à la fois un témoin de quelque chose d'assez extraordinaire qui s'est passé, aussi un instrument. La loi est là pour faire vivre, c'est important. Les Hébreux qui ont vécu la loi, qui l'ont vraiment appliquée dans l'Antiquité, grâce à leur rigueur d'application de la loi, ont pu vivre et ont pu traverser l'histoire. Une histoire quand même extrêmement difficile pour eux. Il ne faut pas perdre de vue que c'est un tout petit pays, hein, Juda et Samarie, que le peuple hébreu est pratiquement rien, dans l'histoire, comparé aux grands empires qui sont autour, que ce soit au sud, l'Égypte, l'Orartu au nord, en Arménie, ou l'empire assyro-babylonien à l'est. Là-dedans, Israël et Juda ne sont que pratiquement rien, ne comptent pas, ne pèsent pas lourd. Et pourtant, ce sont eux qui ont subsisté. Bien, le peuple juif qui a subsisté de de cette haute antiquité grâce à cette loi qu'ils ont suivie, qu'ils ont appliquée, qu'ils ont entendue. Une loi qui avait, certes, qui est inspirée très fortement des lois qui existaient déjà dans les royaumes environnants du Moyen-Orient. Ça, c'est évident, de Babylone et autres lieux, puisqu'on a retrouvé ces stèles avec des pratiquement mot pour mot certains passages qui ont été repris dans la loi de Moïse. Mais les Hébreux l'ont vécu d'une manière assez extraordinaire. Et cette loi a rayonné dans le monde. Elle a rayonné dans le peuple hébreu, elle a rayonné dans le monde par la suite. Alors c'est vrai qu'il ne faut pas perdre de vue cela, mais cette loi, si elle porte en elle la marque de Dieu telle qu'elle est vécue, elle est rayonnante d'une certaine manière, c'est les reflets de la gloire divine. C'est vrai que cette gloire est passagère, comme le dit Paul. Il exagère un petit peu dans ce passage diatribe de l'Épître aux Corinthiens. Mais c'est vrai que Moïse avait un voile sur son visage pour ne pas empêcher les Hébreux de le rencontrer face à face, parce que vous savez qu'on ne peut pas voir la gloire divine sans mourir dans la tradition vétérotestamentaire. Paul dit, mais ce voile n'a pas d'intérêt d'abord parce qu'il n'a pas duré sur le visage de Moïse. Donc il dit que la gloire est que passagère. Mais la loi est quand même positive, le commandement est positif. La loi organise, elle protège, elle transmet un enseignement et elle se transmet elle-même aussi. Mais le problème, lorsqu'on a une loi qui est écrite, c'est la tendance, le risque qu'il y a à la figer finalement. Vous savez, nous avons des expressions, quand on dit par exemple « ce que je dis c'est gravé dans le marbre », vous savez, cette expression, lorsque quelqu'un dit ça, ça veut dire que cette parole que j'ai dite, on n'en va plus du tout en discuter, c'est comme ça, c'est vraiment gravé dans le marbre, toc. Ou lorsqu'on a signé, on a mis la signature, on l'a écrit, c'est écrit. On a ce type d'expression qui nous montre que la loi peut être figée, qu'elle peut donc déraper, parce que la loi dans l'Ancien Testament est assez, je dirais, mouvante, fluctuante. Elle n'a jamais été vécue, malgré tout ce que je viens de dire, toujours de la même manière selon les circonstances et selon les personnes. Si vous prenez la loi du Lévitique, qui est quand même extrêmement sévère, extrêmement dure, ça correspond à une période d'Israël extrêmement troublée, c'est-à-dire aux alentours de l'exil à Babylone. Donc il fallait vraiment bétonner au maximum pour que le peuple hébreu, à l'intérieur de cette loi, soit à l'abri des murailles de cette loi. La moindre transgression de la loi est punie de mort, quelle que soit cette transgression. Parce que sinon, on met en danger l'existence même d'Israël, qui n'a plus de terre, qui n'a plus de temple, qui n'a plus de roi. Vous voyez, il ne reste plus que la loi. Donc on est dans la loi, on n'y est pas pour survivre. Isaïe, qui est à une autre période, un peu avant l'exil, il y a encore la royauté avec ses excès de classe dirigeante qui exploite les autres et ainsi de suite. Vous aurez chez Isaïe, chez Amos, chez Osée, ces prophètes de la royauté, des applications de la loi, des références à la loi qui seront différentes. Mais ce sera la justice sociale qui va être importante à ce moment-là, parce que c'est là où ça dérape. C'est intéressant de voir ça, parce qu'en fonction des circonstances, bien la loi peut être appliquée d'une manière ou d'une autre. Mais le grand prophétisme, s'il a saisi cela, tout le monde ne le saisit pas malheureusement, hélas. Et la loi peut être radicalisée, confisquée et définir. Le risque de toutes les intégristes, le risque de définir un en la loi et un hors la loi. Dans ce cas-là, la loi risque d'exclure, de juger, de condamner, malheureusement. Ce qui fait qu'on va se retrouver dans la loi ou prétendre être dans la loi, c'est quand même l'effet de l'orgueil ou de la peur de ne pas être dans la loi, la peur d'un Dieu qui risque de juger. On a là des notions de Dieu qui fonctionnent avec ses applications à la rigueur de la loi, un Dieu qui ne correspond pas tout à fait, à mon sens, à la vision de Jésus-Christ, de sa prédication et de celle des apôtres. Il y a cet orgueil aussi de certains qui peuvent dire « moi je suis dans la loi », qu'on appelle un peu les pharisiens dans le Nouveau Testament, qui le disent et qui le redisent. Alors la loi qui peut être formidable, selon la manière dont on va s'en saisir, qui peut être un lieu de vie, qui peut protéger les plus pauvres. Vous savez que, par exemple, dans la loi, lorsque quelqu'un a des dettes qu'il ne peut pas rembourser, eh bien, on peut tout lui prendre. Comme aujourd'hui, vous avez l'huissier qui arrive et puis qui retire tout. J'espère que ça ne vous est pas arrivé. Dans l'Antiquité, on disait on pouvait tout prendre, sauf le manteau. Et dans la loi, dans la Torah. Parce que le manteau, c'est ce qui couvre la nudité de la personne, donc sa personne en intimité, d'une part, c'est ce qui permet de pas avoir trop froid l'hiver et de pas avoir trop chaud l'été. Il faut laisser le manteau à la personne qui est la plus pauvre et qui ne peut pas rembourser ses dettes, vous voyez. Il y a des pointes comme ça dans la Torah qui sont assez géniales, je trouve. Et pourtant, vous savez, radicalisé, confisqué, mis au service d'un orgueil ou de la peur, ou d'une prétendue possession de la vérité, la loi peut être mortifère et paralysante. C'est pour ça que lorsque des hommes comme Paul et d'autres encore, recevant la prédication de Jésus-Christ ou étant frappés par un événement qui les touche particulièrement, vous savez que Paul ne connaît qu'une seule chose, hein, c'est qu'il est mort et ressuscité. Hein. C'est ce qu'il dit lui-même hein, à la suite de l'expérience de Damas, de cette rencontre avec au chemin de Damas. Eh bien, tout le Nouveau Testament va être de dire eh bien, en Jésus-Christ et en l'Esprit Saint, l'Esprit du Christ, l'Esprit de Dieu, eh bien, il y a là une nouvelle alliance, une alliance qui est fondée sur la mort et la résurrection, qui est une alliance qui est fondée sur la vie et sur la mort vaincue. C'est-à-dire, même s'il y a un hors-la-loi, peu importe, cet hors-la-loi ne conduira pas à la mort, c'est pas possible. La mort est une fois pour toutes vaincue. Alors vous me direz, c'est vrai que la mort biologique subsiste, elle est dramatique pour ceux qui ont subi cette mort à travers le deuil de personnes proches, ça va de soi. La mort, elle est là, évidemment, elle est nécessaire, hélas, si je puis dire, pour que nous puissions vivre. Il y aurait là un long débat à voir qui n'entre pas dans le cadre de cette prédication, mais s'il n'y a pas de mort, il ne peut pas y avoir de vie aussi, hélas, pour ceux qui en ont fait l'expérience. Mais en Jésus-Christ, et par la prédication des apôtres, cet absolu de la mort est écorné d'une certaine manière. Il est écorné, donc le pouvoir absolu de la mort eh bien, s'effondre automatiquement, parce que par définition, il n'est plus absolu. Il s'effondre, et son pouvoir dramatique aussi s'effondre pour faire place à la grâce, à l'espérance, à cette résurrection qui est là, qui est si problématique, qu'on a du mal à saisir, qui est là en espérance. L'absolu n'est plus un absolu. Et il y a donc une libération qui est là, une libération qui est importante. Parce que dans notre esprit, la faute conduit au jugement et à la punition. Et la faute extrême conduit à la punition extrême et à la mort. Et donc, à partir du moment où la mort est vaincue, eh bien, il y a cette porte ouverte à une espérance qui se retourne vers le jugement. Oui, la loi subsiste. La loi subsiste. Jésus n'a jamais renié la loi. Là, il ne faut pas lui faire dire ce qu'il n'a pas dit. Le Nouveau Testament dit même que le commandement est saint, juste et bon. La loi subsiste, elle peut juger, mais elle juge la faute. Et elle ne juge jamais l'homme dans le Nouveau Testament. Et c'est là où la nouveauté. Là où dans la Torah, on aurait lapidé quelqu'un, eh bien, dans le Nouveau Testament, on va dénoncer la faute, mais laisser vivre la personne. Vous connaissez tous l'histoire de la femme adultère, à qui arrive cette histoire, et à laquelle Jésus dit « Moi, je ne te condamne pas, mais ne pêche plus. » De même pour l'aveugle-né, et de même pour toutes celles et tous ceux que Jésus a rencontrés dans son ministère et qu'il a libérés. Finalement, de maladies qui les accablaient et qui étaient vues comme étant le résultat d'un jugement de Dieu sur leur personne. C'est assez intéressant de voir cela, parce que de toutes ces misères humaines, de toutes ces peurs humaines, Dieu va faire surgir quelque chose de positif qui est l'espérance en la vie. L'espérance dans l'être humain, qui n'est pas vu comme quelqu'un qui est susceptible d'être détruit, d'être condamné, jugé, mais qui est susceptible d'être appelé toujours à la vie. C'est la nouvelle alliance. C'est la nouvelle alliance telle que Paul en parle, une alliance qui va être inscrite non pas sur la pierre comme la première alliance, mais qui va être inscrite dans le cœur même des hommes, dans la chair des hommes, qui va faire des hommes les témoins d'une parole extraordinaire qui est une parole libératrice. C'est pour ça que Paul dit à ses paroissiens de Corinthe, eh bien, vous êtes des lettres, les lettres de recommandation, parce qu'en vous, il y a quelque chose qui se passe, vous avez cette loi nouvelle qui est inscrite dans vos cœurs même, et dans vos vies même. Et c'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas une loi formelle, finalement, pas une loi non plus écrite, ça va de soi, mais cette loi, elle est là. Elle est là dans l'humain, elle est là dans le vivant, véritablement, et fait corps avec. On n'oublie pas la loi, évidemment, mais on va en chercher l'essence. L'essence qui est l'amour de Dieu qui s'exprime aussi bien pour son peuple au Sinaï que dans les cœurs des hommes. Parce qu'elle échappe à la paralysie de l'écrit, devient quelque chose d'universel. le grand prophétisme l'avait saisi petit à petit, cette universalité de Dieu. Le Nouveau Testament va l'affirmer avec force. Le cœur des hommes, de tous les hommes, devient le lieu même de cette alliance universelle. C'est l'Esprit Saint qui est là. Ah, vous me direz, mais alors l'Esprit qui vivifie, qui donne la vie, ou l'Esprit qui donne la vérité, on a du mal à définir ce qu'est l'Esprit. L'Esprit, c'est rapidement, là, en quelques mots, c'est cette puissance qu'il y a dans le monde qui exprime Dieu, qu'on peut appeler Dieu, ça dépend comment vous le voyez, mais qui est là dans le monde et qui fait vivre le monde, dans tous les compartiments de la vie, de l'évolution, du changement, du progrès, etc. C'est cette puissance qui est là, qui fait que lorsque deux êtres se rencontrent, et si l'Esprit est là, ces êtres auront l'un pour l'autre, cette volonté de les porter au maximum de leurs possibilités, de leurs dons. L'Esprit est en nous, il est universel, il est le souffle de vie, le souffle au commencement, hein, l'Esprit de Dieu planait à la surface des eaux, cet Esprit que Dieu va souffler dans les narines d'Adam, comme on dit de manière très imagée dans ce mythe de la Genèse. L'Esprit de Dieu, le souffle, hein, qui fait vivre finalement, qui est là, soufflé dans tous les humains, au cœur même de tous les humains, puisqu'il est là, insufflé dans le corps même d'Adam. C'est cet Esprit qui est parole, mais qui est vraie parole, ce que dira l'Évangile de Jean, qui est Logos, ce fameux Logos. Cette parole qui est lancée dans le monde comme ça et qui vient toucher les hommes à un moment donné à un autre avec toutes les variantes et richesses de toutes les paroles humaines. Vous savez que très souvent on se penche sur la tour de Babel pour savoir si c'est une malédiction ou une bénédiction. Hein? Question. À votre avis, si on vous pose la question, on va dire oh, le coup de la tour de Babel, c'est une malédiction, parce que bon, eh ben, c'est pas si sûr que ça. Parce que les langues humaines sont tellement riches, tellement variées, elles expriment quelque chose de tellement extraordinaire dans leur variété que c'est véritablement une bénédiction. Et je cite toujours l'exemple qu'on m'avait donné des Esquimaux qui ont, je ne sais pas, 20 ou 30 mots pour dire la neige, alors que nous, nous en avons 2 ou 3. Parce qu'eux, ils sont confrontés à ce phénomène qui, pour nous, n'est que passager. Donc, évidemment, nous n'avons pas la richesse dans ce domaine. Et ainsi de suite, nous pourrions multiplier sans doute les exemples pour montrer la complémentarité des langues, leur richesse, finalement, cette richesse de l'humain qui s'exprime. Il y a là ce logos, cette parole dont on dit, hein, les théologiens parlent dans leur jargon un peu dinosauresque, de logos spermaticos, hein, c'est-à-dire une parole qui sème quelque chose, qui sème quelque chose d'absolument essentiel dans le monde, mais au-delà de nos cercles de croyants, de pratiquants, je veux dire, mais qui sème quelque chose dans le monde, dans de tout le cœur de tous les hommes. C'est assez étonnant de discuter avec l'un d'entre nous une fois à propos de la sagesse, qui est une autre manière de dire l'esprit, cette sagesse que l'on saisit comme étant marquée de l'esprit de Dieu. Cette sagesse, si vous lisez Lao-tzu par exemple, donc on va en Chine là, je veux dire, on n'est pas tout à fait dans le monde chrétien, loin de là. Si on lit à côté les Proverbes par exemple, ou le Siracide, ou que sais-je encore, ces livres qu'on appelle les livres de la sagesse dans l'écriture, eh bien vous verrez qu'il y a des choses qui sont tellement semblables qu'on peut dire qu'il y a quelque chose qui passe au travers de l'humain, quelque chose qui est de l'ordre de la sagesse, de l'intelligence finalement, quelque chose qui vise à faire vivre les êtres humains, non pas seulement biologiquement parlant comme ça, mais dans une autre dimension, dans la dimension de la rencontre, de l'amour, etc. Pour ça que cet esprit qui est là, cet esprit qui est souffle, qui est parole, qui est sagesse, qui est même ineffable finalement, qui se vit plus qu'il ne se dit, parce qu'il se dit avec tellement de difficultés, comment exprimer une telle chose. Bien, cet esprit est l'esprit de liberté. Il n'y a personne qui puisse échapper à cet esprit finalement, cet esprit qui est inscrit au cœur de tout être humain, qui est là, parole, qui est là, à la disposition du monde, qui n'est lié à rien et qui donc peut toucher tout le monde. Oui, l'esprit, c'est la liberté. C'est cet esprit de liberté et de sagesse qui va nous faire prendre en compte finalement la loi elle-même et qui va nous la faire lire comme elle doit être lue, lire comme une loi elle-même de liberté. Il ne faut pas oublier que la loi de Moïse est liée à l'Exode, c'est-à-dire à la libération de l'esclavage, et qu'elle pose en premier lieu la justice de Dieu, qui est d'abord une justice sociale, qui pose en premier la dignité de l'être humain, sa valeur et la justice sociale. L'esprit et vie, non pas à ce sens biologique, comme je dis, mais les libertés et les vies, parce qu'elle va donner à nos vies du sens, un sens qui nous échappe, un sens qui est de l'ordre de l'espérance. Alors, c'est vrai que souvent, On se pose la question de la transfiguration. Je crois que la transfiguration, si elle est celle du Christ, je ne sais pas très bien comment c'était, de même que la transfiguration de Moïse, qui rayonne, c'est un peu le même type de phénomène, si vous voulez, je ne sais pas très bien comment ça et comment ça se passe. Mais ce que je sais, et ce que peut-être vous savez aussi, c'est que la transfiguration nous touche les uns les autres. Je suis sûr que si vous cherchez dans vos souvenirs des rencontres avec des personnes, des visages que vous voyez, vous avez certainement vu des visages transfigurés, des visages qui expriment tellement de choses sans dire un mot, qu'on se dit là, tiens, dans cette personne, il se passe quelque chose qui ne peut pas se dire, mais quelque chose qui a une valeur profonde en la vie, qui s'adresse à moi précisément, et qui va me porter et me faire vivre aussi. C'est ça la transfiguration, pas un phénomène surnaturel finalement, quelque chose qui se passe dans le regard de l'autre, dans l'altérité. Et c'est pour ça que le voile est levé. Le voile est levé parce que la parole, la loi n'est pas écrite dans le marbre qui serait intangible et sacré, mais la parole, elle est inscrite au cœur des hommes qui rayonnent effectivement. L'esprit Paul saisit dans ses communautés corinthiennes qui en font sa lettre de recommandation, comme il dit, cet esprit, il est là. Il est là parce que c'est l'esprit de l'amour de Dieu qui s'exprime à travers les hommes. C'est un moment d'espérance et c'est toujours le royaume qui affirme sa présence dans le monde. Amen. Quelques nouvelles, même du futur, on dit nouvelles, mais c'est du futur pour la semaine qui vient. Nous sommes dans la semaine de l'unité des chrétiens, hein. Ne perdez pas de vue quand même, même si ce n'est pas un truc qui vous chatouille beaucoup, là, les libéraux, mais c'est quand même un événement intéressant. Il est quand même plus intéressant de présenter une unité qui n'est pas une uniformité au monde plutôt que des divisions, hein. Je vous rappelle que dans la théologie classique, traditionnellement, on dit que c'est le diable qui divise. Hein. Et donc, je crois que c'est, même si nous ne croyons pas trop au diable, je veux dire ce que je comprends, mais il n'empêche que cette sagesse populaire qui garde cette expression et n'est pas sans fondement. Voilà. Alors donc, dans le cadre de cette semaine d'unité, je ne voulais pas dire de bêtises, hein, aidez-moi si je me trompe, le mercredi 20 à 20h30 à Sainte-Clotilde, 101 rue de Reuilly, il y a un moment de prière dans ce lieu qui est un des hauts lieux de l'œcuménisme, du reste, hein, de Parisiens. Il y aura les diaconesses, etc., des prêtres, pasteurs et tout ce que vous voulez. Qui sera présent, toujours dans le cadre de la semaine de l'unité des chrétiens. Nous avons ici un groupe œcuménique qui fonctionne et que je fréquente assidûment et qu'une autre personne de la paroisse fréquente aussi, mais ça ne fait pas beaucoup quand même pour la paroisse. quand même. Alors c'est vrai qu'une personne peut en sauver, peut sauver les autres, hein, ça, c'est un air connu, mais c'est... Je voulais quand même vous faire part quand même de l'étonnement de mes collègues devant ce phénomène. Alors, rue Titon, le jeudi 21 à 19h30, il y a un moment de prière œcuménique, donc chez les frères luthériens. Hein, je vous rappelle que le pasteur luthérien est aussi très, très libéral et que c'est quand même quelqu'un qui est très proche de nous. Mais voilà, bon, je crois que c'est intéressant que vous le sachiez. Si vous aviez une soirée à dépenser cette semaine, il me semble que d'aller rue Titon jeudi, ce serait quelque chose de pas mal. Et alors, on va rester dans la semaine de l'unité des chrétiens parce que le vendredi 22 à 19h, l'association David et Jonathan viendra pour un moment de prière qui réunira les catholiques et les protestants aussi. Vous voyez, c'est une association bon, de gens qui sont homosexuels ou de gens qui les accompagnent, dire, qui se réunissent régulièrement. Ils ont des études bibliques, ils ont des séminaires, des week-ends de formation, etc. Et ils vont d'une paroisse ou l'autre, selon les années, pour ce moment de prière de la semaine de l'unité des chrétiens. Donc cette année, c'est au foyer de l'âme, le vendredi 22 à 19h. Donc voilà pour tout ce qui touche un petit peu l'œcuménisme dans cette semaine de l'unité des chrétiens. Alors je regarde s'il y a d'autres choses pour votre gouverne. C'est intéressant que vous le sachiez, on est en train de relancer la commission des bâtiments mercredi prochain. Jeudi, je ne serai pas précisément rue Titon, mais je serai à Rouen pour une conférence. Et puis, samedi matin, nous avons la réunion autour du journal Évangile et Liberté. Et il y avait un article sur le mal, hein, qui, je regarde Jean-Nicolas... Si je me trompe, tu me le dis, hein, dire, hein, pas ce mois-ci, mais le mois d'avant, il y a eu un article sur le mal qui a été écrit par Pernaud, si je me souviens bien. Donc, nous réfléchirons particulièrement sur cette question du mal. Et puis, évidemment, sur le numéro d'aujourd'hui, qui est sorti récemment. Je vous rappelle qu'il y a un cahier Évangile et Liberté écrit par Danny Noquet sur comment on est passé d'une sorte de polythéisme au yavisme dans l'histoire, finalement, qui est tout à fait remarquable. Et Danny Noquet est vraiment un professeur vraiment assez extraordinaire. Enfin, un petit coup de pub, quoi. Hein. Voilà. Et puis, je regarde mon carnet et puis j'ai le plaisir de vous dire que j'ai 3 ou 4 réunions de préparation de mariage dans la semaine, ce qui est quand même assez sympathique aussi. Hein, donc, c'est toujours quelque chose de plein d'espérance et d'émerveillement que cela. Et puis, le dimanche 24, nous aurons pardon, nous aurons le premier culte conférence ici à 10h30 sur l'idée ici on enseigne l'humanité qui est notre slogan, vous savez, du foyer de l'âme. Et donc on va réfléchir sur cette humanité à travers les quatre conférences qui vont avoir lieu. Donc la première c'est dimanche prochain et le thème c'est la dignité de l'être humain que je vous présenterai pour ouvrir cette série de conférences. J'ai rien oublié ? Le cahier. Ouais. Très bien. Alors, la deuxième, c'est Gagnebin, c'est ça, hein, dans l'ordre, qui va disserter sur l'idée de Dieu s'est fait homme et pour que l'homme devienne Dieu. Pas mal, hein ? Beaucoup. Après le premier dimanche de février, donc le 7 février, c'est Jean Bobéro qui va nous parler de la laïcité, évidemment, hein, qui est quand même quelque chose qui touche l'humain en profondeur. Et je crois que c'est important de que, sachant combien Charles Wagner a discuté avec Ferdinand Buisson, Pressensé et toute la bande de l'époque, combien ce sujet est un sujet qui nous touche aussi. Et le dernier dimanche, qui est le 14, c'est Stéphane Lavignotte qui viendra nous parler de tout un certain nombre de questions de diaconie. Donc là aussi, c'est l'humain qui est pris en compte, hein, évidemment, hein, à travers ces questions. Et... que j'oublie pas de vous le dire, cette journée du 14 est mise sous, je dirais, un patronage, je sais pas ce qu'il faut dire, de Évangile et Liberté, précisément, parce qu'on voudrait relancer une journée Évangile et Liberté sur Paris. Voyez. Alors, on s'y est pris un petit peu tard, quoi. Il y a que quelques semaines sur cette idée, mais... ce 14 février sera la journée Évangile et Liberté sur Paris au foyer de l'âme. Donc, la conférence du matin, un repas à midi qui sera une choucroute, hein, c'est ça? Voilà. Je vous le dis à l'avance, hein, si vous êtes gourmand. Et donc, il faut vous inscrire autant que faire se peut. Parce que c'est important. Si on prépare une choucroute pour 50 personnes, si vous êtes 20 personnes, ça va pas. Et si c'est le contraire, ça va pas non plus. Donc, si on prépare pour 20 et que vous êtes 50, c'est toujours embêtant. Donc, inscrivez-vous. On sait que les inscriptions ne reflètent jamais le chiffre total des personnes qui viennent, mais à partir du chiffre de personnes inscrites, on arrive à projeter à peu près le nombre de personnes présentes. Donc, il est très important de vous inscrire si vous désirez venir à ce repas. L'après-midi, il y aura une conférence portant sur l'histoire avec un concert d'orgue à la fin. Vous voyez ? Donc, voilà un peu pour les réjouissances futures. Ça colle, là ? Vas-y, va dire quelque chose. Isabelle Laverne, conseillère presbytérale.
C'est juste un petit peu anecdotique, même, Vincent nous dit souvent que la gourmandise n'est pas un défaut. Hein, tu le dis, tu le répètes.
Ah oui. Bon. Je maintiens.
Alors, sur le site, j'ai mis hier les recettes que Simon, le compagnon de Céline, nous a concoctées au repas de Noël. Donc, ceux qui étaient au repas de Noël et qui voudraient récupérer les recettes, vous pouvez les trouver. Et ceux qui n'y étaient pas, vous pouvez les trouver aussi. C'était juste génial.
Voilà, c'est bien, hein? Oui, pour ceux qui ne sont pas au courant de mes élucubrations théologiques, je dis que la gourmandise est un discours théologique. Parce que si Dieu nous a donné des papilles gustatives, c'est pour s'en servir. Et faire honneur à Dieu, c'est bien manger. Voilà. Et si Dieu nous a donné des bonnes choses à manger, c'est pour les utiliser aussi. Donc cette rencontre de ces deux réflexions font que, véritablement, la gourmandise est un honneur que l'on fait à Dieu. Véritablement. Évidemment, c'est l'addiction, c'est l'excès qui sont mauvais, ça va de soi, mais pas la gourmandise. Voilà, donc j'espère que vous êtes tous très gourmands, parce que c'est vraiment une très bonne qualité. Alors, ceci étant dit, on peut garder une minute ou plus, je pense qu'il serait intéressant de mettre sur le site non seulement les recettes de Simon, qui sont des recettes de cuisiniers professionnels de très haut niveau, de très grande qualité, mais aussi des recettes qui se prépare la veille pour que les maîtresses de maison ou les cuisinières ou cuisiniers hein, qui disent bah, « je ne peux pas, j'ai du monde à midi, dimanche, il faut que je prépare la cuisine, etc. » Non, il faut trouver des recettes qui se préparent le samedi ou le vendredi et qui se réchauffent seulement. Vous voyez, comme la choucroute, par exemple. Vous voyez ? Alors, si vous avez des idées dans ce domaine, on pourrait dire quelques recettes pour les pratiquants. Voilà. Je suis sûr que pour que l'éternité ne soit pas trop longue, Dieu a quand même de l'humour pour nous permettre de la supporter. Enfin bon. Bon, ceci étant dit, gardez votre humour pour l'offrande, ça passera mieux. Dieu aime le don joyeux, vous savez ce qu'on dit toujours, hein, vous savez, mais il faut le dire avec les formes, évidemment, parce que ça va de soi. Mais je crois que c'est un plaisir de pouvoir participer à l'élaboration de cette église qui, du fond des âges, depuis les communautés des Corinthiens, et ainsi de suite, ont permis à des générations de personnes de pouvoir vivre de cette parole extraordinaire, de la puissance de l'esprit dont on parle. Ça s'enseigne pas, l'esprit, ça se reçoit, mais on en parle, donc c'est important. Je crois que participer à l'offrande, c'est participer aussi à tout cela, donc il faut le faire évidemment avec une certaine reconnaissance, une certaine joie, ça va de soi. Et pendant ce moment, je vous invite à prendre le cantique 296. Dans notre prière, on peut penser à la famille Campos. La Thérésa n'est pas là aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elle n'est pas loin. Elle est avec sa fille qui est en train de vivre sa première communion. Voilà. Donc c'est quand même une grande fête. Et donc, je pense qu'on peut penser à elle parce qu'elle nous rend quand même plein de services et qu'elle est pleine d'allant et de vie. C'est quand même extrêmement agréable de l'avoir dans nos murs. Mais je pense qu'à travers Diana, donc c'est elle dont il s'agit, qui vit ce moment de communion, de première communion, je pense qu'il faut penser à tous les enfants, à tous les jeunes du monde qui sont là, ceux qui ont besoin d'avoir une petite place sur Terre pour vivre et qui n'ont pas cette place, ceux qui n'ont pas la chance d'avoir des parents qui sont seuls et qui errent de par le monde en proie à des hommes qui vont les exploiter finalement. Et ainsi de suite. Je pense qu'il y a tant et tant de situations qui sont là dans nos manières de voir, dans nos renseignements que nous glanons ici ou là, qu'on ne sait plus très bien quoi dire, mais je pense qu'il faut penser à tous ces enfants du monde, ceux qui sont dans la joie, mais aussi tous ceux qui sont dans la peine, et bien évidemment, ça va de soi. Pensez aussi, évidemment, à cette actualité qui est assez lourde, puisque régulièrement, on entend parler d'attentats de la part de gens qui sont des esprits complètement fermés, manipulés, je veux dire, qui ont perdu toute forme de liberté de pensée, je veux dire, et qui sombrent dans la violence comme étant le seul moyen d'expression qu'ils peuvent avoir. Quand même une dégradation de l'humain qui est quand même énorme. Il faut penser évidemment à toutes les victimes, mais aussi aux assassins. Si les uns et les autres sont des victimes, évidemment, d'idées confuses et destructrices, évidemment, ils ne sont pas victimes au même niveau, ça va de soi. Mais je pense qu'il faut aussi prier pour les terroristes autant que pour leurs victimes, ça va de soi. Prier pour la paix. Nous avons lu Ésaïe aussi avec ces recommandations de justice sociale. Là aussi, beaucoup d'engagements à prendre. Malheureusement, nous étions au moins à deux de cette assemblée à une réunion de retrouvailles du collectif des morts de la rue. Eh bien, tant qu'un collectif comme celui-là existe, c'est quand même une honte pour nos sociétés, ni plus ni moins. Il faut voir les choses comme elles sont. Voilà. Mais vous avez certainement aussi des gens que vous aimez, des situations que vous connaissez, que vous avez envie de présenter à Dieu, ça va de soi. Je veux dire, là aussi, beaucoup de gens, sûrement, beaucoup de situations, et qui sont chères à vos cœurs. Et puis, au-delà de tout cela, il y a notre Église. Je mentionnais ces Corinthiens qui sont si tumultueux, je veux dire, avec leur division, leur manière de voir, qui sont pas toujours, qui est pas toujours très classique, c'est le moins qu'on puisse dire. Et prions pour nos églises, pour qu'elles soient vraiment dans l'unité, véritablement. Hein, une unité de témoignage, va de soi, même si elles sont très diverses. Et ça, je crois que c'est tout à fait intéressant d'avoir cette diversité, pour que tout un chacun puisse trouver sa place dans telle église ou telle autre église, évidemment. Père, notre Père, tu es au cœur de nos vies et ton nom est magnifique. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que le pain soit en partage sur toutes les tables du monde et que ta parole nourrisse chaque être humain. Donne-nous la force de pardonner comme tu nous pardonnes. Toi qui ne nous laisses jamais seuls face aux tentations et aux forces du mal. À toi, notre Père, le règne de l'amour, la force de l'esprit, la lumière de ta parole, au siècle des siècles. Amen. Chers amis, dois-je dire comme l'apôtre que vous êtes une lettre de recommandation ? Je ne suis pas l'apôtre, évidemment, mais je suis persuadé que tout un chacun ici présent, et puis bien d'autres qui sont au-delà de ces murs, sont des lettres de recommandation, des gens qui, comme tout être humain, hein, ont une parole inscrite au cœur même de leur vie. Mais ce dont je suis sûr, et c'est pourquoi je suis sûr que vous êtes une lettre de recommandation, c'est parce que si vous êtes venu ici et que vous êtes venu chercher quelque chose, comme le dit Esaïe, chercher quelque chose d'une alliance nouvelle, comme l'a souligné Esaïe dans le premier texte que nous avons lu, ou comme l'a répété Jérémie au chapitre 31, lorsqu'il parle de cette nouvelle alliance. Voilà. Pour tout cela, je pense que vous êtes une lettre de recommandation. Je pense aussi que dans nos vies, vous pouvez être transfigurés quand vous vous rencontrez les uns les autres, quand vous vous accueillez les uns les autres, et que vous vivez l'essentiel, qui est une parole d'amour et d'espérance. J'invite à vous lever pour vivre la bénédiction. Que l'Esprit de Dieu soit vraiment en vous. Un souffle qui vous transporte, qui vous dynamise, qui vous dérange aussi, mais qui vous porte loin, très loin, là où vous ne pensez pas pouvoir aller. Qui puisse vous faire penser ce que vous n'osez pas penser. Qui puisse vous faire dire des mots auxquels vous échappez pour l'instant, mais qui vont s'inscrire en vous de telle sorte que lorsque vous le direz, il y aura un visage qui va rayonner en face de vous. Oui, vous êtes les porteurs d'une parole. Vous êtes les lieux de l'esprit, incontestablement, alors que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Allez en paix, maintenant et à jamais. Amen.